Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a des discussions que l'on ne voudrait jamais avoir avec ses enfants. Et la maladie est certainement l'un des sujets les plus délicats à aborder. Maladie de l'enfant, grave problème de santé qui concerne parfois son entourage direct, ses parents, ses frères et sœurs. Des enfants que l'on souhaite avant tout protéger. Et malgré soi qu'il faut confronter à des réalités parfois douloureuses. Incertitude sur l'évolution, traitement éprouvant, rupture avec les habitudes en cas d'hospitalisation ou encore pour certaines pathologies, la souffrance physique. Difficile d'expliquer lorsque soi-même on est confronté au doute, à l'inquiétude et parfois à la peur. Pour autant, tous les soignants vous diront que se taire, le silence n'est pas la solution et encore moins cacher volontairement la vérité. Alors, en parler oui, mais comment ? Comment faire comprendre certains troubles que soi-même on a du mal à cerner ? Comment ne pas transmettre ses propres angoisses face à ce problème de santé ? Comment préserver l'insouciance que l'on associe volontiers à l'enfance ? C'est notre sujet du jour aujourd'hui dans Priorité Santé. Trouvez les mots pour parler de la maladie aux enfants avec nous en studio, docteur Béatrice Pellegrino. Bonjour.
Bonjour.
Question à laquelle vous êtes confrontée au quotidien puisque vous êtes chef de service de pédiatrie au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, pédiatre au centre hospitalier intercommunal de Poissy et vous avez présidé, docteur Pellegrino, le réseau d'Île-de-France d'hémato-oncologie et soins palliatifs pédiatriques. Tout à l'heure, on sera en ligne avec Camille Génier qui s'est inspirée de son combat personnel contre un cancer, un lymphome pour signer un livre jeunesse mis en image par l'illustratrice Pascale Bourgeot. Ce livre s'intitule « Comment maman a tué le chef des pamplemousses ». Il est publié aux éditions Rue de l'Échiquier Jeunesse. Problématique pour les familles et médecins du monde entier, comme nous le verrons avec le professeur Léon Chilolo, pédiatre hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier Mère-enfant de Montcollet de Kinshasa. Entreprendre contre la malnutrition. Ce colloque va se tenir la semaine prochaine à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous serons en fin d'émission en ligne avec le professeur Daniel Thomé, président du comité scientifique et professeur de nutrition à AgroParisTech.
Priorité santé sur RFI.
Alors, parler de la maladie aux enfants, ça peut revêtir plusieurs formes différentes. Le diagnostic qui est posé pour l'enfant lui-même, et puis la maladie d'un proche au sein de la famille, dans l'entourage immédiat. On va donc aborder ces deux problématiques qui sont assez différentes. Docteur Béatrice Pellegrino, lorsque l'on est pédiatre, bien sûr, encore plus en milieu hospitalier, on va dire, parce que c'est pas les bobos du quotidien, là, ce sont des maladies en général qui sont assez graves. C'est forcément une question qui se pose. Est-ce que c'est une question que vous vous étiez posée quand vous avez décidé de devenir pédiatre?
C'est une question qu'on aborde assez vite dans le cadre de nos études qui se passent pendant l'internat dans les services, dans différents services. Donc, bien évidemment, toutes les spécialités pédiatriques ont affaire à un certain nombre de maladies graves. On apprend, je dirais, sur le terrain grâce à nos aînés. Et c'est aussi ce que je m'efforce de faire à l'heure actuelle avec les plus jeunes.
Alors, ça se passe par étapes. La maladie est identifiée et il y a ce moment décisif, le moment de l'annonce. Docteur Béatrice Pellegrino, comment ça se passe? D'abord, à qui le dites-vous en premier lieu?
Je prends toujours les parents à part pour un temps d'entretien et d'annonce qui va être fondamental pour après, secondairement, retourner vers l'enfant en le connaissant un petit peu mieux. Parce que ce premier temps de l'annonce, en fait, faut considérer que la plupart du temps, il se fait dans un temps d'urgence, c'est-à-dire que on s'adresse à une famille, à un enfant qu'on ne connaît pas, sur des symptômes qui vont nous amener à faire le diagnostic, et il faut dans un temps très court, annoncer quelque chose de grave. Donc, il va falloir que l'enfant et sa famille comprennent ce qu'on va leur dire, et puis, je dirais, entendent. C'est-à-dire assimile un petit peu les informations Et pour ça, la clé, c'est quand même de s'adresser à eux avec des mots compréhensibles. Oublier souvent notre jargon médical, ça passe des fois par des dessins, par quels sont les symptômes, comment on arrive à ce diagnostic. Et puis le deuxième temps de l'entretien avec la famille, c'est de faire connaissance avec eux, avec leur quotidien, avec la structure de la famille, qu'est-ce qu'ils font comme travail, comment ils perçoivent leur enfant, pour pouvoir justement après adapter notre discours à l'enfant et la façon de l'annoncer à l'enfant, avec ses parents, sans ses parents. Voilà,
ça se passe par des mots, mais aussi par des attitudes. Justement, certains parents ne peuvent pas contenir bien évidemment certaines réactions. Il y a les larmes, parfois il y a pire, il y a des cris, il y a le refus. Comment vous gérez tout ça?
C'est pour ça que je préfère toujours prendre les parents d'abord à part sans l'enfant, parce que en fait, ce qui va faire l'inquiétude de l'enfant, c'est de voir ses parents justement pleurer, s'effondrer, et puis les parents aussi, c'est normal, et vont avoir des questions qui peuvent poser sans la présence de leur enfant, ce qui s'autoriserait pas avec lui. Du coup, en effet, après, on gère toute l'empathie dont on peut faire preuve. Et puis, en essayant de leur dire la vérité et d'apporter aussi un espoir, des points positifs pour qu'on aille de l'avant. Et ça, c'est surtout la possibilité de dire maintenant, on a posé le diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire ?
Avec évidemment la question de l'âge, hein, docteur Béatrice Pellegrino. En pédiatrie, on soigne de 0 à 18 ans en général, même quelquefois quelques années au-delà quand on est un jeune adulte. Comment est-ce qu'on choisit ces mots ? Bien sûr, au cas par cas, en fonction de la personnalité de chacun, même si des fois on ne connaît pas cette personne. Comment on fait pour trouver le vocabulaire adapté ? Question très concrète. Quand on doit annoncer certaines maladies qui ont des noms, on va le dire carrément barbares, lymphome hodgkinien, déjà, quand on va un petit peu dans les livres de médecine, on a du mal à saisir le sens. On donne des surnoms aux maladies ?
Je pense que c'est important de nommer avec le vrai terme. Parce que après, on ne se rend pas bien compte. L'enfant, il a un imaginaire aussi. Et qu'est-ce que le mot qu'on va donner va représenter ? Donc, c'est important de dire, tu as un lymphome. Alors, lymphome hodgkinien, c'est peut-être pas... Mmh. Mais tu as un lymphome, tu as une leucémie, tu as un néphroblastome.
Et il n'est pas question d'infantiliser.
Faut pas infantiliser. Mmh. Et après, c'est pour représenter ce que c'est. C'est là qu'on s'aide des fois de dessins, de représentations du corps humain, où ça se situe. C'est vrai qu'on dispose maintenant de beaucoup de livres adressés aux enfants, justement sur l'anatomie, sur des choses qui font pas peur. Où se situe la lésion, quel organe est atteint, et après on peut expliquer les symptômes, pourquoi tu as mal, pourquoi
on a l'image volontiers des enfants curieux. Est-ce qu'il le reste à l'annonce d'un diagnostic? On va dire que un peu comme certains, ils accusent le coup, ils sont en forme de mode hibernation en prenant la nouvelle. Ou est-ce qu'à un moment donné, comme il y a un flot de questions qui va venir, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qui va se passer ?
C'est très variable. Sur la maladie en soi, il n'y a pas toujours énormément de questions. En fait, l'enfant et le petit enfant, ce qui lui importe, c'est son quotidien. Et c'est là qu'on a peut-être en pédiatrie fait le plus de progrès ces 10, 20 dernières années. C'est que la maladie... puisse garder l'enfant dans son quotidien d'enfant. Ils peuvent maintenant de plus en plus, malgré les traitements, aller à l'école. Et ça, pas seulement pour les cancers, pour toutes les maladies, on prête attention à ce que la maladie et les traitements vont entraîner dans son quotidien. L'enfant, pour lui, son quotidien, c'est d'aller à l'école. Donc, quand il peut y aller, il va y aller. Quand il peut pas y aller, on lui explique pourquoi il peut pas y aller.
Voire même l'école va à l'hôpital parfois.
Voire l'école va à l'hôpital ou à la maison. Ça, c'est important. Et puis, pour la famille aussi, tes parents, en effet, sont tristes là à l'annonce du diagnostic parce que tu vas être à l'hôpital un certain temps. Voilà. Ne pas mentir sur ce qui va se passer comme changement. Parce que ce qui rassure l'enfant, c'est finalement sa routine du quotidien. Donc là, on va bouleverser tout ça pour en réinstituer une nouvelle qui est un peu plus instable. Il faut le rassurer par d'autres routines et garder ce qui peut être gardé.
S'habituer à prendre de nouvelles habitudes avec un rapport à la maladie qui peut changer avec le temps. Tout de suite, ce reportage. Une rencontre avec Matteo, il a 12 ans, il est traité depuis 6 ans pour un diabète de type 1. Il ne se souvient pas vraiment de l'annonce du diagnostic, seulement qu'il refusait au début les piqûres, les injections d'insuline. Aujourd'hui, sa pathologie fait partie de sa vie de tous les jours. Raphaël Constant l'a rencontré en banlieue parisienne.
C'est une maladie qui vient du pancréas. C'est des vaisseaux en fait qui fabriquent plus mon sucre. Donc du coup, on est obligé de me faire des piqûres pour me donner du sucre.
Matteo, comment est-ce qu'on t'a parlé de ta maladie ?
Avec un médecin et mes parents, je crois.
Qu'est-ce qu'on t'a expliqué à ce moment-là ?
Bah, que j'avais un diabète de type 1 et que fallait juste que je me fasse des piqûres matin, midi et soir. Soit je fais tout seul, soit c'est mes parents. Je me souviens que on faisait que 2 injections le matin et 2 injections le soir. C'était mieux. Mais j'étais moins stable.
Et toi, qu'est-ce que tu comprends de ta maladie, du diabète ?
Bah, je comprends que c'est une maladie où il faut que je fasse attention à mon alimentation, que je fasse attention à pas trop manger, il faut que je calcule tous mes aliments, toutes les glucides de mes aliments, enfin ma mère, il faut tout qu'elle calcule.
Et d'un point de vue médical, comment tu t'organises ? Comment tu comprends ce que tu dois faire de façon quotidienne ?
Bah que je dois faire mon dextro, c'est un lecteur qui compte combien j'ai de grammes de sucre dans le sang. Il faut que je le fasse régulièrement et que je fasse mes injections.
Et est-ce qu'il y a des gens qui t'en parlent de ta maladie ? Est-ce que toi tu en parles à l'école par exemple ?
Bah on me pose la question, c'est quoi mon capteur ? Et je leur réponds, c'est juste pour compter mon gramme de glucides, c'est tout. En fait ça me vient pas à l'esprit d'en parler. Je pense à autre chose.
Est-ce que tu fais des activités extrascolaires ?
Oui, je fais du foot. Mon père, à chaque fois, il vient m'accompagner pour venir faire mon dextro, pour me rappeler qu'il faut que je le fasse. Si je fais trop de sport, par exemple, ça va faire baisser ma glycémie, donc du coup, je vais devoir prendre du sucre pour remonter.
Et ça, comment on te l'a expliqué ?
Bah, au départ, les médecins ils avaient expliqué à mes parents et après mes parents ils m'ont expliqué petit à petit. J'ai vite appris. À la colo aussi, c'est une colo qui a été organisée par l'association des jeunes diabétiques. Ça se passe bien, je me fais des amis et je vois que je suis pas le seul diabétique. Je me dis que je suis pas tout seul à avoir cette maladie.
Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire ?
Bah, par exemple, aux anniversaires, je peux pas manger à ma faim. Je suis obligé de manger ce que mes parents me donnent. Et des fois, c'est un peu restreint. Bah, par exemple, les bonbons, les gâteaux, tout ça. Des fois, c'est un peu agaçant. Parce que je vois les autres manger et ça me donne faim. Je comprends que c'est pour moi et c'est pas pour m'embêter qu'ils font ça, c'est pour ma santé.
Est-ce que t'as l'impression que ta vie est bouleversée par ta maladie ?
Non, pas du tout. C'est une vie comme toutes les autres, sauf que je dois faire des piqûres. J'ai accepté ça. Bah, j'étais un peu obligé, parce que c'est pour moi.
Matteo avec Raphaël Constant, docteur Béatrice Pellegrino, on vous retrouve dans le studio de Priorité Santé, avec du temps pour cet enfant, comme souvent d'ailleurs, pour intégrer tout ce que va impliquer la maladie. Le diabète, c'est complexe, beaucoup de choses à vérifier, beaucoup de changements dans les habitudes de vie. Tout ça, ça prend du temps à comprendre tout ce qu'impose la maladie.
C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique qui se développe maintenant depuis de nombreuses années pour apprendre à l'enfant et à ses parents. Parce que là, dans le cadre du diabète, ça peut être des annonces diagnostiques à tout âge, mais des fois chez des petits-enfants. Donc il y a une première annonce aux parents et un apprentissage pour eux de tous les soins nécessaires. Et puis, comme on l'a entendu pour ce jeune homme, il ne se souvient pas de l'annonce qui était probablement à un âge plus petit, et progressivement, on va inclure l'enfant dans ses soins et lui apprendre sa maladie. C'est hyper important qu'il comprenne pourquoi il faut se faire des piqûres, parce que sinon, il ne peut pas accepter s'il ne comprend pas à quoi ça sert.
L'importance de l'autonomie, docteur Béatrice Pellegrino. Alors, pour revenir aux informations qui entourent la maladie, par exemple, il existe des maladies évolutives, il va y avoir des hospitalisations. Vous avez en tant que médecin un devoir par rapport à un patient adulte, un devoir de transparence. Est-ce que d'un point de vue de la déontologie, c'est la même chose pour les enfants ?
C'est la même chose avec en tête... à mon sens, l'idée de ne pas inquiéter. On informe les parents de l'ensemble des problèmes possibles pour que ils soient en capacité de réagir comme il faut devant un symptôme, devant un problème, ou de répondre aux questions de leur enfant.
C'est bien là toute la différence entre un vrai médecin et un site internet où il va y avoir le pire du pire du pire. Vous n'êtes pas là pour dire le pire de l'évolution, vous êtes là pour dire ce qui se passe.
Et puis ce qui se passe pour tel enfant, ça ne va pas être la même chose que pour un autre. Donc au cas par cas, après on sait bien qu'à l'annonce diagnostique, c'est tellement brutal que ils entendent un dixième de ce qu'on va leur dire. Donc ça sert à rien de déballer pour déballer la totalité des choses. Ça va être de voir, de revoir, voilà. Et c'est par cette démarche-là successive aussi d'établir une confiance. Les parents, en effet, vont bien savoir qu'on leur cache rien, mais progressivement apprendre les choses.
Et pour ce qui est d'informer le reste de la famille, quand il faut dire à un frère, à une sœur, est-ce que les parents vous demandent des conseils ? Comment ça se passe ?
Oui, beaucoup. Là aussi, comme nos premières questions sont... est-ce qu'il a des frères et sœurs qui vous entourent pour cette épreuve? Assez souvent, on a en effet la question qu'est-ce qu'il faut dire, comment le dire. Et là encore, toujours, je pense que c'est de notre rôle, pour éviter de cacher les choses ou pour trouver les mots qu'il faut, on propose systématiquement que les frères et sœurs viennent aussi à l'hôpital, voient éventuellement les soins aussi, le cadre, et puis nous rencontrent s'ils ont des questions, parce qu'ils peuvent avoir des questions qu'ils ne poseront pas à leurs parents, notamment dans le cadre de l'oncologie. Les plus grands peuvent s'interroger sur la mort de leur frère, et ils vont bien évidemment pas le poser aux parents, en sachant que ça va être très difficile pour eux.
Alors communication, vous l'avez dit tout à l'heure, on va y revenir justement, communication qui peut aussi s'appuyer sur des supports adaptés.
Priorité santé sur RFI.
Des images, des mots qui parlent aux plus jeunes, pour retranscrire votre témoignage. Camille Génier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de théâtre, metteur en scène. Vous êtes aussi l'auteur de « Comment maman a tué le chef des pamplemousses » illustré par Pascal Bourgeot, publié aux éditions Rue de l'Échiquier Jeunesse. Alors, cette maman, c'est vous. Ce combat, c'est celui que vous avez mené contre un cancer. Et les mots que vous avez trouvés pour en parler à votre enfant, Camille Génier, quel âge avait votre enfant au moment du diagnostic ?
Alors, mon enfant avait 3 ans et demi au moment du diagnostic. Donc, c'était vraiment un petit bout de chou. Le diagnostic a été posé, j'insiste aussi sur le contexte, parce qu'effectivement, c'est très important, et que le moment où tombe le diagnostic est différent d'un patient à un autre. Nous, il y a eu un caractère d'urgence assez intense. Donc, sur le moment, c'est vrai que la communication, elle n'est pas toujours immédiate. Il faut que les choses se posent, il faut que effectivement le patient concerné encaisse aussi l'annonce pour lui-même. Et puis après, bien sûr, il est très important, j'écoutais le médecin qui expliquait ce temps nécessaire, et puis ce temps de transparence, et de surtout pas éluder une vérité, et de pouvoir trouver les mots pour le dire. parce que l'enfant observe et s'imprègne de toutes les histoires de famille, que ce soit la maladie ou d'autres événements. Donc les mots pour le dire sont vraiment essentiels et indispensables.
Le choix des mots, le choix des images. Alors la couverture, on vous voit, on va dire, affublé d'un costume, on pourrait dire d'indienne d'Amérique, avec votre petit-fils qui a son tomahawk, sa petite hache, pour faire face avec vous à la maladie. Et puis derrière, vous êtes vraiment bien entouré, puisqu'il y a toute l'équipe médicale en blouse blanche qui se tient bien droite pour tordre le cou à cette maladie que vous avez désignée du nom d'un agrume, ce pamplemousse. Pourquoi ?
Alors le pamplemousse, finalement, j'ai utilisé l'image que les médecins avaient utilisée avec moi. C'est-à-dire que pour signifier l'importance de ce lymphome, de ces globules blancs qui ont complètement dégénéré, qui se sont agrégés en chaîne au-dessus du cœur, les médecins, par rapport à l'imagerie aussi médicale, m'avaient expliqué que j'avais l'équivalent en masse, même si c'était pas une masse ronde telle un pamplemousse, mais en tout cas que c'était aussi conséquent qu'un pamplemousse. Donc l'image me paraissait suffisamment parlante, pour qu'on l'utilise avec Pascal Bougeot lors de la création de l'album Jeunesse, et toute la poésie et la métaphore du personnage de l'Indienne, etc. Là, c'est vraiment les images que Pascal a dû voir dans sa tête au moment où je suis arrivée avec l'histoire, où je lui ai transmis avec mes mots et avec sans doute ce que je génère aussi au moment de la rencontre. Et c'est vrai que là, c'est vraiment son invention, son travail créatif.
Voilà, justement, pas mal d'humour dans les dessins. Excusez-moi de vous avoir interrompu. On vous voit notamment une galerie de portraits assez cocasse, hein, c'est un vieux mot, mais je l'emploie quand même, parce que ça correspond bien, voire comique, en train de grimacer avec des foulards qui habillent votre tête, puisque vous aviez perdu les cheveux en raison de la chimiothérapie. Cet humour, vous l'aviez au moment des soins, ou c'est quelque chose que vous avez a posteriori, quand vous avez en fait dépassé le stade de la maladie, ou vous aviez réussi à conserver avec votre enfant ce savoir-faire du jeu et de la complicité?
Ça, je crois qu'effectivement, ça fait partie de mes traits de caractère, en fait, depuis bien avant la maladie. Je crois qu'on reste, même en passant dans la case du
malade
patient,
et rigolote.
Voilà, le tempérament et le caractère, il est peut-être un peu transformé ou malmené à travers cette expérience de vie, mais c'était quelque chose, la complicité avec mon enfant, elle existait à la base, et c'est vrai que sans doute, et puis le fait, c'est pas neutre que je pratique le théâtre et que j'ai cette activité, fait que j'étais à la fois dans un processus créatif en me disant comment on pourrait signifier les choses à travers un album jeunesse, et comment avec mon petit garçon, voilà, alors les images, effectivement toute cette palette de maman avec plein de turbans, parce qu'elle m'a vraiment grimée avec beaucoup de couleurs, et toutes ces grimaces, peut-être que finalement en parlant je grimace un peu aussi dans la vie, et qu'elle a saisi comme ça des expressions faciales assez précise. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui a nourri, qui a permis aussi de toujours dialoguer. Et puis l'enfant, comme je dis, les cheveux, c'est vraiment un marqueur, un des marqueurs clés, je dirais, pour les personnes qui sont passées par la case cancer ou pas d'ailleurs. Et l'enfant, moi je me souviens très bien, donc là il avait 3 ans et demi, 4 ans, et j'avais anticipé, ça je me souviens c'était précis, autant le mot cancer, je crois que je l'ai pas prononcé tout de suite, autant les cheveux, je savais que ça pouvait arriver, que ça allait arriver, et j'ai voulu anticiper, et j'avais dit très clairement à mon petit garçon, tu sais, je prends des médicaments pour soigner donc la maladie, et il se trouve, alors c'est quand même extraordinaire, que les médicaments qui vont soigner le pamplemousse, ils vont aussi peut-être faire tomber mes cheveux. Voilà, c'est cause-conséquence, ça va arriver, certainement, il y a des fortes chances. Et du coup, à partir du moment où la chose était dite, eh bien le jour, effectivement, il y avait une espèce de logique implacable, puisque l'enfant avait été prévenu, les cheveux tombent, maman m'avait prévenu, c'est du fait du médicament.
Il voilà, n'y avait pas d'effet de choc. Dans le titre, il y a l'évolution de votre maladie, c'est donc la rémission. Est-ce que vous parlez encore aujourd'hui de la maladie avec votre enfant ?
Alors, parfois, oui. Il se trouve que l'album Jeunesse a été créé quelques années après voilà, la maladie, qu'il a été moteur et impliqué dans la construction aussi de l'album Jeunesse, que certaines des phrases retranscrites, comme je pense, on va à l'hôpital, ça sent comme à la piscine. Voilà, bah ça c'est vraiment une phrase qu'il avait prononcée petit. Et puis il a été, c'est vrai, très observateur des planches que Pascal nous proposait, très investi. Il m'a même dit, alors aujourd'hui il a 8 ans, quand le livre est paru, tu sais, ça m'a permis de encore mieux comprendre ta maladie. C'était comme s'il y avait un temps comme ça aussi de digestion, puis le temps qui passe, parce que maintenant c'est un souvenir. Et puis aussi une fierté, c'est-à-dire que ça a été le premier à prendre son livre et à l'emmener à l'école.
Et le montrer aux autres.
Et le montrer aux autres.
On vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Camille Génier. Ce livre qui s'appelle donc Comment maman a tué le chef des pamplemousses, publié aux éditions Rue de l'Échiquier Jeunesse, illustré par Pascal Bourgeot. On se retrouve en studio avec vous, docteur Béatrice Pellegrino. Le choix des mots, hein, c'est important. Le choix des images aussi. Les images, on l'a vu là, visuelles. Également, les images qu'on emploie dans le vocabulaire. Comment ça se passe, vous, avec les enfants ?
Faut les interroger justement sur comment ils voient la chose et les informations qu'on leur a données. Moi, je commence toujours, et ça permet aussi de savoir quelle est leur perception de tout ce qui se passe autour d'eux, par la question. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on t'a dit déjà ? Parce que ils arrivent parfois avec un parcours un peu long d'examens complémentaires, d'inquiétudes, parce que personne n'a trouvé encore ce qu'ils ont. Et voilà, ils ont capté tout un tas d'informations. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on t'a dit jusqu'à présent ? Et en fait, avec les mots qu'ils emploient, ça permet de rétablir si c'est pas tout à fait ça, et puis de voir si justement c'est quelque chose qui les inquiète et qu'est-ce qui les inquiète dans ce qu'ils ont reçu comme information.
Et on va voir tout de suite comment ça se passe du côté de la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Léon Tshilolo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes pédiatre hématologue, vous dirigez le centre de formation et de recherche du centre hospitalier Mère-Enfant Moncolé de Kinshasa. Je parlais tout à l'heure de nom de maladie compliquée. Alors s'il y a un nom de maladie compliquée, même si un grand nombre de nos auditeurs le connaissent bien, c'est bien la drépanocytose, c'est votre spécialité. Comment est-ce que vous expliquez, avec quel mot, professeur Tshilolo, vous expliquez par exemple à un petit enfant de 5 ans qu'il est porteur du gène de la drépanocytose et qu'il a les signes de cette maladie ?
Eh bien voilà, ce n'est pas toujours facile, mais chez un enfant de 5 ans, le terme que nous utilisons habituellement dans notre contexte, c'est de lui dire qu'il est anémique, ça signifie qu'il n'a pas beaucoup de sang. Et ça, l'enfant le comprend très bien parce qu'à 5 ans au Congo et en Afrique, il aura déjà été transfusé. Donc il aura déjà reçu du sang et il comprend qu'il n'a pas assez de sang dans son corps. Mais comme c'est une maladie qui est caractérisée surtout par la douleur et par les complications infectieuses, il faut lui expliquer maintenant que c'est une maladie qu'il a eue parce qu'il a reçu la moitié du sang de son papa et l'autre moitié de la maman. C'est une notion importante que les enfants comprennent, parce que comprendre la maladie génétique, c'est pas très courant dans notre contexte africain. Nous n'avons pas les termes appropriés. Il faut donc lui expliquer que c'est une maladie que papa et maman ont pu transmettre à l'enfant. Ça, c'est pour expliquer la transmission génétique. Et maintenant, là où il faut vraiment utiliser des mots et des images qui conviennent, c'est de lui de répondre parfois et dire pourquoi j'ai tout le temps mal. Il faut lui expliquer qu'il a mal parce que les os n'ont pas assez de sang, assez d'oxygène. Et puis la chose qu'il va demander, la question fondamentale qu'il demande, même à 7 ans, hein, qu'est-ce que je dois faire pour guérir ?
C'est alors, ça. Là, c'est et surtout, quand est-ce que vous allez me guérir, docteur ?
Voilà. Alors là, c'est la grosse question. Justement, ce matin, j'ai vu une petite fille de 11 ans. Elle a eu l'avantage d'être diagnostiquée en période néonatale aux USA, mais elle a su qu'elle était anémique. D'ailleurs, le terme trépanocytose, elle a difficile à le prononcer, seulement à partir de l'âge de 7 ans, grâce à sa maman courageuse qui lui a expliqué qu'elle avait vraiment cette maladie. Et tout de suite, comme elle est bien intelligente, la question c'est de dire « comment est-ce que vous allez me guérir ?» Eh bien, cette petite fille, elle parle déjà de la graisse de moelle. C'est extraordinaire parce que avec Internet, les enfants savent surfer et avoir les informations qu'il y a sur cette maladie.
Maladie.
Mais dans notre contexte africain, ce n'est pas de la graisse que nous parlons souvent. Nous parlons des médicaments essentiels qu'on peut donner à ces enfants. Ce sont les vitamines, les médicaments contre les infections, la pénicilline, et enfin l'unique molécule que nous avons à notre portée pour le moment, que les enfants acceptent, hein, c'est de prendre l'hydroxyurée.
Et bien sûr, professeur Chilolo, une couverture vaccinale au maximum, hein, avoir le plus de vaccins possible.
Oui, et ça les enfants acceptent. Hein. Les enfants acceptent les vaccins parce qu'ils disent que ça me protège contre les infections. Ça, je dirais que d'une façon générale, les enfants acceptent la couverture vaccinale. Mais alors, il y a quand même un aspect qui est important. Vous aviez parlé tantôt de l'image et du vocabulaire qu'il faut utiliser. Ici, chez nous, un petit enfant de 5 ans, on lui dit qu'il a mal. Pour apprécier l'intensité de la douleur, on recourt pour la drépanocytose à des images qui permettent d'apprécier l'intensité de cette douleur. Et parfois, il faut demander à l'enfant, tu veux me montrer où tu as mal? Ça, c'est vraiment important. Ça permet à l'enfant d'exprimer ce qu'il a mal. Par exemple, lorsqu'il a une jambe qui lui fait mal, il va dire « bobo » ici.
Avec des mots très simples, des mots d'enfant. Professeur Léon Chilolo, je vais faire appel à votre expérience, à votre expertise, parce que nous avons un auditeur en ligne qui demande des conseils. Justement, je pense que ces conseils, vous allez pouvoir les lui donner. Cet auditeur s'appelle Dany, il est à Brazzaville. Bonjour Dany.
Bonjour madame.
Alors, on vous écoute Dany. Le professeur Léon Chilolo, qui est à Kinshasa, est à votre écoute. Allez-y.
Alors bonjour professeur.
Bonjour Dany.
Il y a de cela 3 ans qu'on a eu à diagnostiquer que mon petit frère était séropositif. Il est âgé de 13 ans. Jusqu'alors, les parents ne souhaitent pas nous le faire savoir. Et pour eux, ils se disent peut-être que c'est un sujet à caractère tabou, une maladie de honte. Alors, il est sous traitement. Mais jusqu'alors, lui-même ne sait pas de quoi est-ce qu'il souffre. D'autant plus qu'il y a une fois, quand il prenait le médicament, il m'a demandé « Mais c'est quoi cette maladie qui ne finit jamais ?» Il prend le médicament tous les jours, mais ça finit jamais. Et j'avais du mal à lui répondre. Je lui ai tout simplement dit que ça va finir. Continuer à prendre le médicament, ça va finir. Alors, j'ai quelques questions.
Allez-y, Dany.
Ok, la première question c'est de savoir comment aborder ce sujet avec lui, comment lui dire qu'il est séropositif, y a-t-il un âge précis pour l'informer et comment protéger son entourage. Aussi la dernière question c'est de savoir comment je devrais convaincre mes parents qu'ils doivent à tout prix informer toute la maison, sinon toute la famille, et pour protéger son entourage, surtout à l'école aussi.
Professeur Léon Chilolo, c'est peut-être la question de base. D'abord, commencer à parler avec les parents.
Bien sûr. Alors, il faut savoir que le diagnostic, c'est quand même une chose importante que le malade a le droit de savoir. Sauf qu'il faut s'y prendre progressivement et choisir le moment le plus approprié pour le signifier. Il ne s'agit pas de donner des verdicts ou des sanctions. Et donc, il faut utiliser toute la sensibilité, le tact, pour dire la vérité. Même quand il s'agit de parler à un enfant, un jeune homme de 13 ans, donc c'est un adolescent. D'ailleurs, à cet âge, à 13 ans, je peux vous dire une chose. Parfois, il va faire semblant de ne rien savoir, mais il aura cliqué sur Internet, sous base des médicaments qu'il prend, ou bien ses copains à l'école, il a toujours quelqu'un qui sera son confident. Dans ce cas-ci, c'est probablement vous, hein, le Danny, hein, vous êtes son grand frère, vous aurez parlé avec lui. Essayez d'être confiant et de lui dire la vérité. Maintenant, comment vous allez lui dire la vérité? D'abord, il faut dire aux parents la vérité, et les parents le savent, ce n'est pas une maladie de la honte, c'est une maladie. Il faut présenter cela comme une maladie qu'on peut soigner. Je ne dis pas nécessairement guérir. C'est le cas de la drépanocytose, on la soigne. Et donc, il faut prendre des médicaments et expliquer qu'en prenant ces médicaments, on peut mener une vie tout à fait normale, sans trop de complications. Et vous lui dites, c'est comme un enfant qui est diabétique, qui doit tout le temps se piquer, prendre son insuline et ainsi de suite. Bon, on comprend que c'est lourd, mais il faut le prendre. Et après, le terme qui peut choquer, c'est quand vous allez dire séropositif, ça signifie quoi? Ça signifie sida. Alors là, il faut peut-être bien utiliser les termes plus appropriés, hein, à son âge. Et les choses ne se disent pas en une fois, dans une seule consultation, mais probablement il faut un entretien à plusieurs étapes. Il faut lui dire, écoute, comme il y a plusieurs virus, hein, c'est une maladie virale, ce ne sont pas des bactéries, mais pour le moment, le médicament que vous prenez permet de contrôler cette maladie et le virus ne se développe pas. Après, écoutez, sincèrement, à présent, je pense que cet enfant est assez intelligent pour cliquer sur Internet pour comprendre qu'il a le sida.
Professeur Léon Chilolo, est-ce que cette annonce, elle doit être faite en présence d'un médecin?
Cette annonce, ce serait bien qu'elle soit faite en présence du soignant, pas nécessairement médecin.
Oui, ça peut être une infirmière, quelqu'un d'importance dans l'entourage.
Voilà. Dans l'entourage. Ce serait mieux parce qu'il s'agit d'une maladie
complexe.
Et les parents ne sauront pas utiliser les termes appropriés et ne sauront pas répondre aux questions qui peuvent s'en suivre. Et donc, ça serait bien de le faire en présence du médecin. C'est mon expérience que j'ai avec les enfants de drépanocytaire. Des parents sont devant moi, l'enfant est là, on lui explique. C'est le cas d'une adolescente qui a découvert qu'elle était drépanocytaire à 17 ans, parce que les parents ne le savaient pas. Ils ont refusé de le lui dire, mais j'ai dû le lui dire la vérité devant le papa et la maman. Ben, il y a des petits moments de désarroi, mais après, on vous remercie et les parents se débarrassent d'un poids.
En tout cas, il faut dire aussi, professeur Chilolo, à Dani, qu'il faut en parler à ses parents parce qu'il ne faut pas que ça crée de différends, de conflits au sein de la famille autour de cette maladie. Ce serait très négatif.
Ah, c'est négatif, ça. Et Dani doit en parler aux parents. Dani le sait. Il doit dire à papa et maman, écoutez, papa, si vous voulez, on va voir le médecin qui soigne son petit frère. On peut être là, on peut parler ensemble, comme ça le médecin saura les termes qu'il faudrait utiliser. C'est vraiment important de dire la vérité aux enfants, mais il faut savoir comment la dire avec les termes appropriés et surtout pas de sanctions, pas de verdict. Il faut qu'on les accompagne. Et ça, c'est ce qui donne la sécurité aussi pour accepter un tel message.
Voilà, Dani, pour ces conseils du professeur Chilolo. Voilà sur cette marche à suivre. On vous souhaite une excellente journée à Brazzaville. Professeur Chilolo, on l'a compris, hein, le fond de votre message, c'est dire la vérité, même quand il est question, hélas, parfois de mort, dire la vérité.
Oui, c'est bien cela.
On vous remercie infiniment, hein. Merci. Et puis, en plus, pour toute l'aide que vous venez d'apporter à cet auditeur, Dani, qui se trouve vraiment face à une situation complexe. Merci, professeur Chilolo. Je rappelle que vous êtes également le président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Docteur Béatrice Pellegrino, nous vous retrouvons pour la dernière partie de notre échange dans Priorité Santé. Notre thème du jour, parler de la maladie aux enfants, éducation thérapeutique en cas de maladie chronique par exemple. Justement, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Chilolo, il va y avoir tous ces gestes. Parfois, énormément d'informations qui arrivent. Est-ce qu'on parle dans ce cas-là quasiment d'un médecin pédagogue ?
Bah, c'est fondamental parce que, comme vous dites, il y a énormément d'informations à donner sur la maladie et sur les traitements, les complications éventuelles et de répondre surtout aux questions. Donc, tout au long de la prise en charge, pendant parfois des années, on va être dans cette démarche-là d'accompagnement et d'éducation.
On a entendu au travers de l'explication du professeur Chilolo il y a quelques instants, au travers de son éclairage, ce devoir de vérité. Alors justement, quel message est-ce que vous souhaitez faire passer? Je suis sûre que ça arrive dans des familles qui sont en train de nous écouter, à celles et ceux qui choisissent de cacher la maladie aux enfants. Qu'est-ce que vous leur dites?
On cache pas, on ne peut pas cacher quelque chose d'important comme ça, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, ça va avoir une répercussion sur le quotidien de l'enfant et ça, du coup, on ne peut pas lui cacher. On ne peut pas cacher à un enfant qu'on est triste, qu'on est effondré par un diagnostic difficile, que l'enfant, quel que soit son âge, il voit très bien que son quotidien change, que ses parents se cachent pour pleurer, qu'il parle tout bas au téléphone aux grands-parents ou à la famille. Ils perçoivent tout ça très, 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 très bien. Donc, et c'est ça qui est source de leur inquiétude. Donc, le message, c'est que l'information qu'on délivre va les rassurer. Alors, délivrée par les parents ou délivrée par les soignants, quand, en effet, c'est trop dur pour les parents. Mais les enfants peuvent entendre très bien que... moi, ta maman, je ne sais pas comment t'expliquer les choses. C'est le médecin qui va te les expliquer pour que tu comprennes mieux.
Et le soutien, un soutien psychologique, est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, fréquent, systématique ou rare?
Il est systématiquement proposé, souvent dès l'annonce, parce que les psychologues font partie des membres de nos équipes soignantes. Souvent, les parents s'en saisissent pas au tout départ, parce qu'il faut aussi assimiler le diagnostic, et puis qu'on est souvent au départ dans un tourbillon de soins, et que les consultations de psychologues se font plus tardivement, quand justement on revient un petit peu sur ce qui s'est passé. Oui, mais ça fait partie, en effet, de la prise en charge.
La culpabilité, elle est souvent là, avec la maladie, avec justement les souffrances. Est-ce que vous rencontrez également, docteur Béatrice Pellegrino, des enfants qui culpabilisent d'être malades, ce qui peut sembler paradoxal, mais est-ce que ça arrive?
Forcément, la première question des parents et des enfants, c'est pourquoi ça m'arrive? Alors, malheureusement, on n'a pas toujours, et c'est le cas du cancer, la réponse pourquoi en effet le cancer s'est développé chez toi. Malgré tout, il faut en effet les déculpabiliser sur et souvent le ce qui les rassure, c'est de ne pas être tout seul, de dire bah oui, il y a d'autres enfants à qui ça arrive, il y a d'autres enfants qui ont d'autres maladies aussi, avec des soins qui peuvent être longs ou pénibles. La culpabilité, des fois, elle est pour les parents d'avoir tardé à arriver au diagnostic, à consulter, et pour les fratries de se dire ah bah c'est peut-être de ma faute parce que je me suis disputée avec mon frère ou ma sœur, ou parce que j'ai pensé que je serais mieux s'il existait pas. C'est des pensées un peu magiques.
Oui, voilà. Des pensées magiques. Et puis on va le souligner, hein, notre entretien touche à sa fin. Au-delà des soignants, il y a bien sûr des associations qui peuvent représenter une ressource très importante pour communiquer sur ces sujets délicats. On vous remercie infiniment, docteur Béatrice Pellegrino, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes pédiatre au centre hospitalier intercommunal de Poissy à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne.
La santé, c'est une priorité.
Le colloque Entreprendre contre la malnutrition va se tenir la semaine prochaine, 25-26 novembre, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous allez y participer. Professeur Daniel Thomé, bonjour.
Bonjour, oui.
Professeur président du comité scientifique de nutrition Agrotech Paris. Pour être tout à fait précise, vous êtes en ligne de Tokyo. Professeur Daniel Thomé, on va parler du programme, bien sûr, de ce colloque dans un instant. Mais d'abord, en termes d'état des lieux, un rapport de l'UNICEF publié le mois dernier nous renseigne justement sur l'état nutritionnel des enfants dans le monde pour 2019, avec un constat, hein, à l'échelle du globe, au moins un enfant de moins de 5 ans sur 3 souffre de malnutrition.
Oui, c'est exact. Donc, c'est la population des enfants moins de 5 ans sont quand même sur une proportion très importante en état de malnutrition, alors qu'il va jusqu'à des problèmes de retard de croissance majeur, hein, ce qu'on appelle le stunting, jusqu'à des malnutritions plus légères, mais qui sont avérées quand même, et qui altèrent beaucoup leur capacité de développement, et donc va donner des individus qui ont des problèmes à l'âge adulte.
Avec un problème notamment de carence en vitamines et en minéraux, l'Afrique centrale particulièrement concernée, professeur Daniel Thomé.
Oui, bah, les carences majeures, on le sait, hein, c'est le fer, l'iode, et puis les apports de protéines, alors soit d'un point de vue quantitatif, soit aussi d'un point de vue qualitatif, hein, j'en parle parce que c'est un peu la question, puisque en général, les consommations de protéines animales qui sont relativement plus faibles quand même que dans d'autres régions du monde, et on sait que les protéines animales sont des protéines de bonne qualité. Et donc, il faut trouver des protéines de substitution, et donc c'est un peu l'objectif du colloque, c'est-à-dire de regarder quel type de graines, de légumineuses peut apporter des aliments, et en particulier des protéines, de qualité suffisante bon, pour les populations africaines en général, et en particulier évidemment pour les enfants.
La culture de ces légumineuses, professeur Daniel Thomé, donc on insiste bien là sur le rôle de l'agriculture pour contrer la malnutrition. De quelle espèce de légumineuses parle-t-on spécifiquement quand on se trouve par exemple en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale?
Bah, de toute façon, on va parler des haricots, des fèves, de ce type, des pois, vous voyez, donc c'est toutes les familles. Mais ensuite, il y a à chaque fois, il y a des variétés locales qui sont pas obligatoirement développées de façon suffisante et qui sont en plus pas obligatoirement bien connues, quoi.
Alors, quels sont les avantages nutritionnels? Tout à l'heure, vous avez parlé des protéines végétales. Est-ce qu'il y a d'autres avantages nutritionnels de ces légumineuses?
Alors c'est les légumineuses apportent un certain nombre de vitamines et de minéraux qui peuvent, on peut même trouver du fer, vous voyez par exemple il y a des carences en fer, même si le fer est moins disponible que dans les produits animaux, c'est quand même une source qui est utilisable, et puis il y a un certain nombre de vitamines évidemment, donc il y en a certaines qu'on trouve plus dans les produits animaux, mais il faut trouver des combinaisons d'aliments, mais c'est le but du colloque, quoi, de discuter comment on peut développer une agriculture locale, parce qu'on sait que pour beaucoup de raisons, y compris pour des raisons de respect de l'environnement, de durabilité, pour des raisons de rentabilité de l'agriculture et de revenus des agriculteurs locaux, hein, de développer les agricultures locales, les agricultures familiales, qui leur permet d'avoir des revenus suffisants et de produire évidemment des aliments qui permettent de lutter contre la malnutrition locale plutôt que d'importer évidemment des aliments avec tous les problèmes qu'on connaît sur les problèmes d'importation de produits.
Merci beaucoup, professeur Daniel Thomé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle la tenue de ce colloque « Entreprendre contre la malnutrition ». C'est la semaine prochaine à Abidjan. Et comme je tiens à être tout à fait précise, tout à l'heure, j'ai écorché le nom de l'illustratrice du très bon livre « Jeunesse, comment maman a tué le chef des pamplemousses ». Cette illustratrice s'appelle donc Pascale Bougeot. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise cette émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurence Naud. Demain, nous parlerons des émotions, colère, tristesse, timidité et joie. Comment gérer, comment éviter parfois les sautes d'humeur tout en restant soi-même. Appelez-nous pour témoigner, pour poser vos questions. 33 1 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.